Merci de m'accueillir. Je suis le vieux et je vais faire l'histoire. Je vois quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ce sujet. Donc, j'ai un petit peu réfléchi parce que au cours de l'histoire, j'ai connu les acteurs, je les ai approchés. J'ai réfléchi à quelques messages à vous donner. Est-ce que l'EBM que j'ai vu créer avec les acteurs n'est pas une fin de cycle pour trouver autre chose? Et c'est probablement la question qui va nous animer. Moi, je m'appelle Hervé Maisonneuve, je suis médecin, je suis retraité, je fais encore de la formation, du conseil en réaction scientifique un peu de partout dans notre domaine, mais je fais pas que la médecine, je fais des ingénieurs, de l'agronomie, je fais des tas de choses. Hein. J'ai réédité encore un livre sur la recherche en rédaction récemment, ce sont mes liens d'intérêt, et je suis très engagé depuis largement plus de 20 ans dans l'intégrité scientifique, à la fois internationale et sur le paysage français, où l'intégrité scientifique, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Et j'ai un dernier lien d'intérêt, c'est que je ne suis pas très copain avec M. Raoult, et j'ai eu pas mal d'ennuis pour avoir dit ce que je pensais dès les premiers jours, parce que comme mon background devait être maladie infectieuse, je connaissais depuis 2006 le fait que M. Raoult était interdit de publication aux États-Unis pendant un an par 12 revues de microbiologie. Donc je connaissais déjà ça, et il y avait déjà eu beaucoup de problèmes, il y a eu en 2012 un article contre lui dans Science, donc rien n'était nouveau pour moi. L'histoire, je vais pas partir de tout ça parce que on est très autour de laisser randomiser contrôler, presque à dire pour certains ayatollahs, en dehors de laisser randomiser contrôler, rien n'existe. Ça a commencé dans les années 1930, avant, aux États-Unis parfois, avec les essais randomisés contrôlés qui ont commencé à être demandés par des agences. Et la personne qui a le plus marqué, que lui je n'ai pas rencontré, s'appelle Cochrane, Archie Cochrane de son clinon. Et il y a un livre qui a marqué, qui a marqué. Je n'ai pas l'édition originale. Bien sûr, j'ai des éditions épuisées. J'ai regardé un peu parce que j'ai des éditions épuisées. Elles se vendent encore à 150 euros sur Amazon. Je ne sais pas combien je l'avais payé. Et j'ai regardé un petit peu parce que Archie Cochrane était quelqu'un d'extrêmement original. Donc, c'est en 71 et 72 qu'il a commencé à premier livre, je vais vous donner juste un extrait qui a commencé à marquer. Il était d'Écosse, Angleterre, il a travaillé à Cardiff dans plusieurs endroits. Et ce livre a d'ailleurs eu une traduction française qu'on ne trouve plus, qui est épuisée. Hein. Et la traduction a été l'inflation médicale par les Belges, les Suisses, Rougemont à Genève. Livre traduit qui n'a pas été très vendu, qui n'a pas été très disséminé. Et c'était juste encore 10 ans avant la némésis médicale de Ivan Illich sur toute cette inflation médicale. Donc, vous voyez, ils avaient déjà choisi un titre un peu différent. J'ai repris son livre, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, où c'est lui qui a poussé beaucoup l'essai randomisé, qui a fait des choses qui ont perturbé beaucoup de gens au départ. Il a eu beaucoup d'ennuis. Hein. À Cardiff, un jour, il a comparé dans les maladies coronaires les soins à domicile et les soins à l'hôpital, et il a montré qu'on était mieux soigné à domicile. Alors ça, c'était dans les années 70. Il a été mis au banc de la société des académiques pour dire ça. Hein. Et il avait comparé les deux. Donc, dans l'introduction de son livre, il y a ce paragraphe dont j'ai pris la traduction française parce que ça a été quelqu'un d'extrêmement particulier qui a eu une vie dans la médecine humanitaire. Il a été dans des camps. Il a fait du soin proche des camps nazis. Il n'était pas nazi. Hein. Okay. Et il a eu beaucoup de choses. Et il raconte que dans les années 30, parce que lui, il a poussé pour qu'il y ait un système national de soins, il se baladait avec une pancarte tout seul, et sur sa pancarte, il avait marqué « Tout traitement efficace doit être gratuit ». Il sous-entendait que si on appliquait les brevets, on rembourserait pas grand-chose. Donc, son idée était de dire « Il ne faut rembourser que ce qui marche, et tout le système ira beaucoup mieux ». parce que bon, on remboursait pas encore beaucoup dans les années 35-40, hein, d'accord, mais on était déjà sur cette inflation médicale, et il disait ça, et il a été mis au banc de la société dans ces années avant-guerre du fait qu'il donnait son message. Hein. Donc il dit, moi j'avais ma pancarte, j'étais tout seul, isolé, et puis avec ma pancarte, je passais devant le système de santé anglais qui se constituait, et je disais, il faut rembourser tout ce qui marche, et c'est tout. Donc, vous voyez, c'était très précurseur. Hein. Et dans un livre que je vous montrerai, qui m'a été dédicacé par Yann Chalmers, que je connais bien, dans un livre, il y a une de ses diapos quand il allait en congrès, hein, qui est publiée par un de ses collègues. Ensuite, parce qu'après l'essai randomisé, il est parti sur les revues systématiques, sur les synthèses de littérature, qu'on n'appelait pas encore de revues systématiques. Et une de ses premières diapos qu'il mettait dans des tas de congrès, vous voyez, dans des tas de pays, sa première diapo, c'était l'aspirine sur la mortalité des maladies cardiovasculaires. Et sa première diapo, c'était de dire, il y a eu 6 essais. Ces 6 essais sur du petit nombre de patients ne marchent pas, mais quand on les compile, on a 10 000 patients, et là, ça marche. Ça a été les premières démarches sur tout ce que vous connaissez bien maintenant, de synthèse de littérature, de méta-analyse, une autre chose comme ça. Donc ça a été, disons, le mouvement de l'essai randomisé, puisque dans son livre, Effectiveness and Efficacy, il base surtout sur la comparaison. Il explique bien que la comparaison est indispensable et il commence aussi à mettre ce concept de maladie, histoire naturelle de la maladie. Hein. C'est-à-dire qu'il commence à expliquer, on traite, mais on ne sait pas ce qui se passe si on ne fait rien. Donc, il a été dans ses concepts à dire, de toute façon, avant de traiter, il faut connaître la maladie elle-même. Il y a eu un autre moment fort de Cynthia Bulreau, dans les Annales, qui est actuellement encore rédactrice adjointe des Annales of Internal Medicine, une internaliste du Texas. Et à un moment fort où elle a fait une thèse de science, où elle a pris 50 revues de littérature publiées à ce moment-là, et elle a appliqué, combien, 8 critères? Oui, 8 critères, pour savoir si ces revues de la littérature étaient des revues de la littérature. Et elle conclut, on vous vend des revues de la littérature, mais ce sont des opinions d'experts, parce qu'on ne dit pas comment ont été revus les articles, comment ils ont été cherchés. On n'a pas d'évaluation de la qualité des articles inclus dans ces revues générales. Donc là, ça a été un gros choc, parce qu'elle a dit tout ce qui s'appelle revue de littérature, ce ne sont pas des revues de littérature, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les informations, et ce sont plus des positions d'experts que des avis critiques sur les données existantes. Ça aussi, ça a marqué fortement. La troisième personne qui a beaucoup marqué s'appelle Gordon Gaillat, au Canada. Gordon Gaillat explique, il y a des vidéos qui expliquent, qu'il est arrivé directeur d'un service de médecine interne et que lui, depuis toujours, il était perturbé par ce comportement, disons, paternaliste de ses collègues, qui disait on fait ça, on l'a toujours fait, et comme on l'a toujours fait, ça marche. Donc ça le perturbait beaucoup, et il voulait faire un enseignement un petit peu différent, basé sur ce qu'on appelle le critical reason, la lecture critique, qui n'est pas exactement le BM, hein, basé là-dessus, et il voulait faire ça dans son enseignement. Donc il passe devant le comité de Hamilton, de la faculté, et il dit, voilà, je vais changer mon enseignement, maintenant, je fais plus de par cœur. Les étudiants, ils n'ont pas besoin de savoir des livres. Mais moi, je vais leur apprendre au lit du malade. Il avait une petite table à, devant un malade, chercher la littérature, réfléchir en groupe avant de prendre une décision. Donc, il avait été monté des petits trucs. Il n'y avait pas encore l'Internet. Il n'y avait pas encore tout ça. Donc, il y avait un chariot spécifique pour aller chercher une preuve. Et en disant, va un malade, on cherche qui existe avant de prendre une quelconque décision. Et il est passé devant le comité en disant, je vais faire ça. Et je vais appeler ça la médecine scientifique. Alors là, ça a été un tollé. Un tollé. On ne peut pas utiliser ces mots-là. parce que la médecine a toujours été scientifique. D'ailleurs, les fondamentalistes, les biochimistes et tout, ils font que de la science, hein. Ils font pas de la médecine. Donc, on l'a dit, ce terme de médecine scientifique, nous n'en voulons pas. Et c'est là que, 2 ans plus tard, il est revenu avec son même concept, mais il a appelé ça evidence-based medicine. Donc, vous voyez, au départ, ça ne voulait pas s'appeler evidence-based medicine. Et il l'a appelé comme ça. Et si j'ai mis une définition actuelle en bas, il explique bien que le jour où il a fait tout ça, ça c'est le premier article, il parle d'evidence-based medicine, le jour où il a fait tout ça, les valeurs du patient n'étaient pas dans sa tête. Et l'expérience un petit peu, mais ce n'était que les données dites probantes. Hein. Je vous donnerai mes diapos à ceux qui veulent. Moi, donc, et il explique bien qu'au départ, il n'y avait pas tous ces piliers sur lesquels on reviendra, et il n'y avait pas les valeurs du patient, ni les attentes du patient. C'était que ça. Donc, il explique ça. Et alors là, à partir de ce moment-là, il y a eu une foisson pendant un peu moins de 10 ans d'articles dans la littérature, essentiellement conduit par 2 journaux qui s'appellent le JAMA et qui s'appellent le British Medical Journal. Le JAMA a fait les User's Guide pour, c'est-à-dire pour le diagnostic, pour le pronostic, pour le traitement, pour le machin. On appliquait l'evidence-based medicine à toutes les conduites. Et à ce moment-là, l'idée était, et ça a marché dans certains pays, mais pas chez nous, l'idée était, l'evidence-based medicine, c'est un problème de clinicien. Et ça ne doit être fait que par les cliniciens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit décliné en pneumo ou en cardio que par des cliniciens. Mais dans certains pays comme le nôtre, c'est un concept qui a été pris par des spécialistes de l'evidence-based medicine, de méthodologie, de santé publique, qui fait que les cliniciens n'ont pas été le nerf de la guerre dans certains pays. C'est mon opinion, hein, on pourra en discuter, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Donc, si vous voulez, comme ça a été devenu une spécialité prise en main par des méthodologistes, les cliniciens se sont un peu retirés. Alors ça, c'est très variable selon les pays, selon les choses comme ça, mais l'idée de départ, c'était, c'est un problème de cliniciens. Alors là, on est dans les années 92, une foison série d'articles, je ne sais pas, je n'ai pas compté combien, mais on est dans la vingtaine d'articles sur la série, dans le JAMA, sur 1 an, hein, par toute une équipe avec des gens que vous connaissez. L'autre personne qui a été très importante après Cochrane en Angleterre s'appelle Ian Chalmers. Il a 80 ans. Ian Chalmers, épidémiologiste à Cardiff au départ, qui faisait de l'épidémiologie, a commencé à travailler sur la compilation des essais cliniques. C'était dans l'accouchement prématuré et les corticoïdes. Je rentre sur le détail. Il a commencé à faire des synthèses de littérature dans cette petite équipe à Cardiff. Et c'est lui qui a été l'initiateur de créer ce qui s'appelait la Cochrane Collaboration au début, qui aujourd'hui s'appelle la Cochrane, ils ont changé de nom, et qui a créé ça à Oxford. Et ensuite, il a déménagé, il était à Oxford, et ils ont créé une équipe qui a commencé à créer la Cochrane Collaboration. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on est à 20 ou 30 000 chercheurs de réseau mondial en partant en 90. Donc, il a créé ça. Le logo, vous le savez, j'espère, le logo, c'est sa première revue systématique sur les corticoïdes dans l'accouchement prématuré. Hein, je vois sur les détails. Et ce logo est de ça. Il y a 2 C qui sont sur la collaboration comme ça. Et au milieu, vous avez la revue systématique des corticoïdes. Donc, il a créé tout ça. Il a arrêté il y a quelques années et il a créé maintenant. Et il s'occupe un peu moins de ce qui s'appelle la James Lang Library. Je vous conseille d'aller voir son site, qui est uniquement sur le test diagnostique, qui était quelque chose d'exceptionnel. Vous verrez aussi le piste. Cochrane est mort en 88. Il fait partie de ces rares gens qui ont écrit eux-mêmes, et vous le trouverez, sa nécrologie publiée dans le British Medical Journal. Hein. Et dans sa nécrologie, qui fait 2 pages, qu'il avait écrite avant de mourir, hein, il explique comme toute son histoire. Il n'a jamais été marié, jamais eu d'enfant. Donc, il dit qu'il n'a jamais eu la consolation de sa femme et qu'il a toujours été seul dans ses combats. Il avait une porphyrie, il explique ça. Il y en a dans sa famille, il a eu la tuberculose. Et tout ça l'a beaucoup influencé. Les traitements de la tuberculose au départ, avec les premiers essais randomisés de la streptomycine, il explique tout ça. Moi, j'ai côtoyé tous ces gens-là parce que j'ai été au départ, après la création, dans des agences qui se sont appelées ANDEM et ANAS. J'ai dirigé toute l'évaluation à l'ANAS, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était évaluation, monter les recommandations, les conférences de consensus dans ces années-là. Et je dois vous avouer que ça a été assez difficile. Hein. On a eu des lettres recommandées de présidents de sociétés savantes nous expliquant qu'on était des cons. Hein. Je citais Rémi un petit exemple la semaine dernière. J'ai encore le souvenir des recommandations sur la lombalgie. Hein. Je les ai relues là. Hein. Ou quand on fait le tour de table avec le président de la Société française de rhumatologie pour faire une recommandation sur la lombalgie, autour de table, il vient nous chercher avec Matillon et nous dit « on peut pas travailler comme ça ». Oh, monsieur, vous pouvez pas travailler comme ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs médecins généralistes dans le groupe. Non, mais je l'ai vécu, hein. Et alors, oui, mais monsieur, il soigne aussi. Non, non, la lombalgie, c'est une affaire de rhumatologue. On va dire, il est un peu plus saignant que moi. Il lui dit, bah, écoutez, monsieur, la réunion va se poursuivre, mais sans vous. Ça a pas arrangé nos relations, hein, d'accord? Et finalement, il est revenu dans la réunion. Hein? Et il a été a posteriori content de travailler avec des généralistes. Hein? Alors, on mettait de temps en temps des relectures par le kiné, ce qui était encore pire. Hein? Et ça a été dans un certain nombre de domaines. Je me souviens, le dépistage des cancers du col, où on avait mis, mais de façon explicite, une journaliste pour représenter les malades dans le groupe. Là aussi, le président a voulu la faire partir. Elle avait signé des papiers de confidentialité, elle n'a jamais parlé, ou quoi que ce soit. Mais ça a changé toute la dynamique du groupe. On a eu des lettres recommandées de syndicats, de choses comme ça, nous disant, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai relu la lombalgie, 1994. Il y a marqué thérapeutique, repos au lit. Hein. On n'a pas de données pour savoir s'il faut faire repos au lit. Hein. Il y a une petite étude sans niveau de preuve qui compare 7 jours à 2 jours de repos et qui ne conclut pas. De ce fait, il faut continuer le repos au lit. Marqué comme ça, c'est marqué comme ça, hein, j'ai relu. Donc, on se questionnait même pas sur certaines pratiques. Et quand on disait au président, mais attendez, vous pouvez pas écrire ça, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de preuves et qu'on se questionne, qu'il faudrait avoir d'autres preuves. Et dans cet article de ce texte de 94 de recommandation, il y avait que 3 essais randomisés contrôlés sur les thérapeutiques de la lombalgie. Donc, quand on relit 30 ans après ces articles, ou ces textes, on voit tout ce paternalisme, tout ce qui est appuyé là-dessus. Et à ce moment-là, on disait qu'on avait besoin de synthèse parce qu'il y avait trois choses. Il y avait des variations de pratique entre les gens, mais il n'y avait pas de données en France sur les variations de pratique. Donc, on prenait des données américaines. Et on expliquait aux gens, bah, écoutez, les gens ne font pas pareil la cholécystectomie en fonction des régions des États-Unis. C'est probablement pareil en France. On avait des petits soupçons. Donc, les variations de pratique nécessitent qu'on les guide et qu'on leur donne quelque chose. Alors, aujourd'hui, vous avez le deuxième atlas des variations de pratique en France, hein, et allez le lire, vous verrez que les variations sur l'adénome de la prostate, sur la prothèse de genou sont encore très importantes. Vous verrez que la réhospitalisation après chirurgie bariatrique dans le Nord est de 14% pour une moyenne nationale de 7%. Hein, et dans le Nord est 3 fois plus importante que dans la Moselle. Hein, donc, si vous voulez, sur des indicateurs forts, les variations pratiques sont aussi encore très importantes. Elles existeront toujours. Hein. L'autre chose, c'était de dire en 1994, il y a trop de littérature, donc il faut apporter une synthèse à un praticien, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Hein. Et puis, c'était quand on commençait sur ce mouvement, peut-être on pourra en discuter, de dire, de toute façon, les connaissances vont être obsolètes dans 5, 7 ou 10 ans. Alors, il y a eu beaucoup de données là-dessus, on pourra en parler si vous voulez. Hein. Mais l'obsolescence des connaissances, les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais de tout ce que vous avez appris à l'université pour certains d'entre vous aujourd'hui, il y en a X%, qui est peut-être 30%, ça dépend des conduites, qui n'est plus ce que vous avez appris à l'université. Donc on en revient à Gordon Gaillard qui disait, il ne faut pas faire par cœur, c'est pas la peine d'apprendre les choses, il faut uniquement des méthodes pour raisonner, et il faut passer notre temps à apprendre aux étudiants à raisonner et non pas leur faire débiter des annuaires. Donc ça, c'est 90-90. J'ai entendu une interview d'un doyen français aujourd'hui qui dit sur France Culture, c'est vachement bien la première année, il faut travailler nuit et jour, il n'y a pas de week-end, il faut manger vite et il faut pas trop dormir. C'est un doyen actuellement, il dit ça sur France Culture, et qui dit c'est comme ça qu'on commence les études. Je pourrais vous donner la référence. D'accord, on peut. Alors à ce moment-là, sont arrivées d'abord les différences de consensus, avec une méthodologie américaine et qui a été abandonnée quelques années après parce que c'était trop cher et trop difficile à organiser. Hein. Il y avait les deux salles, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des méthodes plus courtes, soit de synthèse. Il y a eu un moment qui s'appelait les recommandations de référence médicale où il s'agissait de faire en 6 mois des synthèses. Alors, les gens, les experts n'étaient pas d'accord, mais comme c'est la sécurité sociale qui était derrière l'ANAS, la sécurité sociale disait, je peux pas attendre 3 ans pour prendre des décisions. Hein. Donc tout ce modèle que vous connaissez. Et dans les années 97-95, il y a eu une foison de livres. J'en ai certains. Celui-ci vaut encore même plus cher sur Amazon. Hein, il vaut 200. C'est le premier qui est sorti. Et c'était fait pour que les étudiants aient un petit truc dans leur poche pour leur expliquer comment raisonner sur un diagnostic, sur un test, avec des grilles que vous connaissez maintenant, qui ont été refaites après. Et les étudiants étaient censés avoir ça dans la poche. Et ça, c'est à Hamilton, hein, essentiellement au Canada. Donc, excusez-moi, ça bouge un petit peu. Les 97, c'était les 25 ans du livre de Archie Cochrane, et il y a eu beaucoup de mouvements, toutes choses. Et la France n'a pas été à côté de ce mouvement, puisque c'est la revue Prescrire qui a traduit Dubovitsky et Brockner, qui ont traduit un livre anglais sur savoir lire un article médical pour décider. Ils ont eu énormément de difficultés pour trouver un éditeur. Hein. Il n'y avait pas moyen de trouver un éditeur. C'est un éditeur qui n'existe plus, qui était des copains, qui avaient monté une petite société. Ça a été extrêmement difficile de faire ça et de faire la publicité de ça. En 2013, et vous pourrez aller voir les vidéos, en index dans le congrès du peer review à Chicago, moi j'y étais, hein, il y a eu une petite cérémonie, une séance d'1 heure où tous les gens ont expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Les vidéos sont toujours consultables, c'est du très bon anglais, hein, d'accord? Avec Gordon Kenyatta qui explique ce que je viens vous dire, et ça a été écrit en quelques pages dans le JAMA, donc vous avez la référence. C'était 2013, et là encore, on était dans l'evidence-based medicine, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, hein, qu'est-ce que c'est et où on va. Alors, je terminerai par quelques diapos que vous connaissez, hein. Alors, l'evidence-based medicine, c'est pas que la preuve, et les gens l'ont pas compris au début, et il y a encore des gens qui ont du mal, parce que l'evidence-based medicine, c'est mélanger les valeurs du patient, l'expérience professionnelle. Alors, c'est souvent fait par ces trois rangs, hein, que vous avez peut-être déjà vu pour certains, mais c'est pas suffisamment fait en disant que les trois ronds sont jamais égaux. Il y a des domaines où le rond best evidence, best point, c'est tout petit. Donc, il faut décider uniquement soit sur l'expérience, soit sur l'autre. Et comme les trois ronds ont toujours été pareils, les gens ont toujours cru que ces trois choses avaient le même poids. C'est pas vrai du tout. Hein, ça dépend du sujet, ça dépend d'autres choses. Dans certains cas, ce sont les valeurs du patient qui doivent être en premier parce qu'il y a soit zéro donnée, soit les expériences ne sont pas permises. Ensuite, tout ceci a été, avec les synthèses de littérature, montré comme ça. Hein, et vous connaissez ces pyramides qui disent que ce qu'il y a de mieux, c'est la méta-analyse, les revues systématiques, et il y a les avis d'experts. Alors, cette pyramide a été déclinée ensuite non plus dans la médecine, mais dans toutes les choses. Il y a eu evidence-based nursing pour les infirmières, ça a été décliné sur toutes les professions, sur les soins de santé. Les concepts ont été déclinés hors de la médecine dans toutes les professions. On se questionne beaucoup et des questionnements sont arrivés et on en reparlera peut-être au moment de la COVID. Au moment de la COVID, les Canadiens se sont aperçus, des gens dans la COVID, et nous, je ne sais pas si on s'en est aperçu, que les décisions publiques, les décisions des décideurs gouvernementaux ou autres, n'étaient pas passés sur l'épreuve. Je ne vous apprends rien. Hein. Donc, derrière la COVID, a été constituée ce qu'ils ont appelé une commission mondiale sur les données probantes pour relever les défis sociétaux. Vous irez sur le site, c'est un énorme travail qui a eu beaucoup d'argent, essentiellement drivé par des Canadiens au départ et des Américains, mais c'est traduit en 7 langues, dont le russe, le chinois, et avec des universités russes, des universités chinoises et d'autres qui sont dans le truc. C'est énorme comme réseau de gens décideurs. C'est pas uniquement canadien, c'est les Canadiens qui ont fait ça. Et leur idée derrière tout ça, c'est de dire, il faut que les décideurs, et ils sont en train de faire des lobbies au G7, au G20, à l'ONU et partout, hein, que les décideurs comprennent ce que c'est que la notion de données probantes. Alors, c'est relativement complexe, et ils ont ce rapport qui est très illustré, ces rapports, parce qu'il y en a plusieurs, disent à un moment, la donnée probante, ce n'est pas que les CR randomisés contrôlés. La donnée probante, ça dépend des disciplines, ça dépend de ce qu'on cherche, et ils disent qu'il y a 8 façons, mais je ne rentrerai pas dans les détails, d'obtenir des données probantes. Ils introduisent bien sûr les études qualitatives, par exemple, pour avoir des données probantes. Ils introduisent les modélisations seules. Donc, l'idée derrière tout ça, vous décideurs, il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'une donnée probante, que vous sachiez l'utiliser, et ce n'est pas que l'evidence-based medicine ou les CR randomisés contrôlés. Donc là, c'est déjà un changement de paradigme qui a commencé. Et je vais ouvrir sur les prochains orateurs en terminant par un article qui est assez bouleversant ou innovant, c'est-à-dire que on est en train d'abandonner nos vieux concepts d'evidence-based medicine. Et on les abandonne parce qu'on a travaillé sur une partie émergée d'un iceberg. Et qu'aujourd'hui, que ce soit les données de vie réelles, la génomique, la protéomique, l'intelligence artificielle, et ils listent toutes les nouvelles méthodologies des essais randomisés contrôlés, dont je n'ai pas parlé là, mais les essais randomisés contrôlés, c'est plus uniquement la comparaison de deux groupes pour 1 an ou pour 3 ans. Il y a énormément de méthodologies qui ont changé. D'accord. Donc, ils lisent tous les changements de tout ça, et en disant que maintenant, il faut changer, mais ils disent pas bien dans ce papier où on veut aller. C'est-à-dire, il faut changer en intégrant beaucoup d'autres données et en ne restant pas uniquement sur ce paradis. Et je ne suis pas compétent, mais c'est pour ça que je vais laisser la parole aux personnes qui vont me suivre. Il y a tous ces mouvements de BL+, que je ne n'expliquerai pas, puisque c'est après qu'on va en parler. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions, si la salle en a. Vous avez des micros de disponibles au milieu du couloir.
Bonjour, Valentin D, je suis médecin généraliste sur Rouen. Merci beaucoup pour cette présentation et ces rappels historiques qui font toujours du bien. Je suis actuellement inclus dans l'écriture d'un groupe de recommandations. Et justement, je ne suis pas tout seul dans cette salle, il y a une autre personne qui est avec moi aussi dans ce groupe-là. Et je me pose la question de comment intégrer, parce qu'on n'est pas dans une recommandation via la chaise ou avec la méthodologie, comment essayer d'inculquer et d'arriver à conduire cette recommandation dans les exemples que vous montrez, comment l'intégrer avec nos collègues plutôt hospitaliers, qui sont plutôt plus en plus ouverts. Mais la réticence de la relecture par des pairs ou par des patients, c'est toujours compliqué.
Toujours compliqué, d'accord.
On n'y est pas encore, parce qu'on est au tout début, mais j'ai une idée et il y a des gros, gros, gros freins.
Vous m'étonnez pas, hein, ça n'a pas bougé aussi vite que ça. Hein, j'ai décrit un beau monde, hein, mais ça n'a pas bougé aussi vite que ça. Moi, j'ai ce souvenir d'un groupe de travail sur le canal carpien où il y avait des généralistes et des orthopédistes. Les orthopédistes se réunissaient entre eux avant la réunion et ils se répartissaient, parce qu'ils nous l'ont récité à 20, les noms des médecins généralistes pour savoir qui compterait qui quand le médecin généraliste disait qu'il allait pas. Donc, ils avaient une espèce de roadmap, hein, et ils savaient qui allait attaquer qui, dès qu'il les parlait. Donc, vous voyez, ça, ça existait, et je pense que des choses comme ça existent encore un peu. Hein. Alors, à votre question, comment faire? Moi, ma réponse est basique, mais c'est pas obligatoirement la bonne et la meilleure. C'est aller chercher la littérature, apprenez à lire et apprenez à trouver des arguments et argumenter. Parce que la plupart des gens dont vous faites allusion, c'est moi, j'ai 25 ans d'expérience, donc je sais. Hein, et sortir de ce paradigme, on n'en est pas encore sorti complètement. Je vois certains de mes collègues. Moi, j'ai eu une altercation avec certains de mes collègues. On est en train de monter un DU pour apprendre à des jeunes médecins comment écrire, non pas que de la science, mais un roman, un poème, enfin un truc extrêmement particulier sur la rédaction. Vous voulez écrire un roman ou chose comme ça, on est 6 ou 7. Et puis on en vient à l'examen. Comment on va faire l'examen? Ben, moi je dis à l'examen, on autorise l'intelligence artificielle. Oh putain. L'éternel, toutes leurs filles vont être dans l'intelligence artificielle. Et au moment de l'examen, vous voulez leur interdire, alors qu'ils vont l'utiliser après? Alors bon, ils la font pas, on va faire un examen fermé, hein, avec des collègues qui sont plus jeunes que moi, un examen fermé, fermer la porte, on va relever des copies. Donc, si vous voulez, c'est complètement illusoire, ces choses-là. Et on est encore beaucoup là-dedans. Moi, je m'occupe d'un DU sur le développement de médicaments dans l'Alzheimer. Quand on faisait les examens à la fin d'année, l'examen, on venait avec son ordi, on se mettait sur Internet, tous les gens, pendant l'examen, cherchaient tout ce qu'ils voulaient, n'importe où. Hein. Mais alors, attention, les questions, elles étaient particulières. Hein. Par exemple, vous avez 1 million d'euros et vous avez 4 projets cliniques sur l'Alzheimer pour développer des trucs. Avec ce 1 million d'euros, vous êtes obligé d'en choisir un ou deux. Lesquels vous choisissez, donnez-moi les arguments. Hein? Alors, pour les enseignants, c'est beaucoup plus difficile à préparer ces sujets. Ça demande beaucoup de temps. Hein? Mais pour l'étudiant, il est mis en situation. Bon, mais je suis un peu marginal. Est-ce que je dis là, je suis comme Cochrane, je vais me faire marginaliser. Mais je suis plus longtemps. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hein?
Non, alors, pour le coup, je pense qu'il y a quand même, je t'emprunte quand même sur la dynamique du groupe, il y a quand même une évolution qui est j'espère être positif quand même, qui tend à être évolué quand même avec, en tout cas, l'intégration des GNS, parce que vous évoquez déjà, on ne sent pas du tout déjà, il y a peut-être des petits changements qui commencent à arriver, mais après, arriver jusqu'à la relecture, enfin, oui. Patient, c'est un de mes objectifs, mais je ne suis pas sûr d'y arriver.
Alors, c'est fait depuis une dizaine d'années par le British Medical Journal, qui, dans un certain nombre d'articles de recherche, fait toujours relire par une patiente au départ, ça a changé, qui fait relire par des patients tous les grands articles de recherche. Mais ce sont des patients qui ont une dame, mais qui ont appris aussi ce qu'était l'article de recherche, qu'une méthodologie. Et ils en sont très contents de ça.
Hein. Pour rebondir sur les recommandations, je m'étais beaucoup questionné sur une forme de stratégie, un peu de conflit, et d'avoir nos propres recommandations, absolument finalement séparées des spécialistes, parce qu'en fait... si on n'arrive pas à se comprendre et avoir des bases de données, enfin, c'est en fait, les bases de données sont pas les mêmes, les preuves sont pas les mêmes. En fait, dans mon travail, on fait nos propres recommandations de l'infection urinaire. Ils font leurs recommandations de l'infection urinaire. En fait, on travaille avec vos preuves. Et je me questionnais à un moment de me dire, bon, bah, en fait, on commence à avoir les forces et les capacités de faire une propre recommandation. Eux, ils ont toujours fait leurs propres recommandations dans leur coin, sans même imaginer qu'il puisse y avoir des nuances dedans, en fait, on fait nos recommandations, et puis on leur explique c'est quoi notre monde à nous, et puis c'est un jour peut-être...
Vous avez entendu la question,
micro? Oui, question.
Voilà. La remarque était de dire, maintenant on a des forces chez nous pour faire nos propres recommandations, les spécialistes ont toujours fait les recommandations, elles toujours, hein, donc... est-ce qu'on doit, continuer à faire nos propres recommandations parce qu'on n'a pas les mêmes preuves ou quoi que ce soit. C'est extrêmement complexe comme question. Alors, je suis conscient que, enfin, j'espère que dans la salle, les gens représentent la profession de médecine générale française au sens général, et l'échantillon est très représentatif de la population. Et là, il y a un problème, parce que vous êtes à la fleur au fusil, un petit nombre encore, mais la grosse masse n'est pas dans ce qu'on s'échange là aujourd'hui. Hein. Alors, ma position vis-à-vis de votre remarque, est-ce qu'il faut qu'il y ait des recommandations de médecine générale et des recommandations spécialistes? C'est un peu ça derrière tout ça. Hein. Ma position personnelle, c'est non, il faudrait une seule pour tout le monde. Hein, c'est ma position personnelle. Je comprends vos avancées. Hein, je comprends vos réflexions. Vous commencez à être une force suffisante de gens qui ont bien compris des choses. Mais on va encore continuer avec des silos qui auront du mal à se parler. Hein, mais peut-être qu'il faut en passer une période par ce temps-là pour arriver un jour. Mais la bonne façon pour moi, c'est une seule, quelle que soit la spécialité. Mais je sais qu'en disant ça, je n'ai peut-être pas obligatoirement l'assentiment de toutes les foules. Ah, une chose dont je suis sûr, j'ai pas l'assentiment des spécialistes.
Si je peux me permettre, je me permets juste une...
Vous êtes spécial, ça marque.
Je suis pas spécial, enfin, en médecine générale. On a fait une recherche franco-suisse où il y a un peu plus de 5 ans, qui démontrait quand même que lorsque les recommandations sont divergentes, comme quand il y a des recommandations de sociétés savantes qui sont divergentes, elles ne sont pas du tout suivies.
Les deux, vous voulez dire?
Pour aucune, en fait. Aucune n'est suivie. On a une énorme hétérogénéité des pratiques, mais ce qui est assez logique, en fait.
Ouais, ça m'étonne pas, ça, hein. Ça m'étonne pas.
Bonjour, Agnès Pelletier, je suis spécialiste en médecine générale et je suis rédactrice en chef d'EDM France, dans le collège de la médecine générale. Et juste pour réagir sur ce point-là, si je ne m'abuse, vous allez probablement parler des critères de qualité d'élaboration d'une recommandation, peut-être dans la suite des interventions ce matin ou peut-être une autre fois. Mais si je ne m'abuse, dans les critères UI2, qui sont des critères de qualité d'élaboration d'une recommandation, il y a un des critères qui est « Est-ce que toutes les parties prenantes ont participé à l'élaboration de la recommandation ?» Et mon interprétation... C'est la même chose que ce que vous dites. C'est en fait, si on fait des recommandations de chapelle, en disant, bon, les spécialistes de ceci ou de cela ont fait une recommandation, et la médecine générale, on va faire une recommandation de chapelle aussi, oui. Ça fait cette discordance-là, oui. Qui fait que, comment on va y voir clair en nous, quoi. Donc ça, c'est, voilà. Moi, pour l'instant, ma lecture, c'est ça. Et, ma lecture évoluera avec, la production collective de comment on fait bien les choses. Et je vois qu'il y a un bossage en
pire. René, prends le micro, ouais. Je peux répondre à tout. Oui, là, j'ai souhaité, merci. C'est intéressant de souhaiter. Ça suit, mais, réagir, mais, en fait, les données probantes, probant, ça veut rien dire. Parce que probant pour vous, c'est probant pour moi, c'est, les spécialistes d'organes qui se font les recommandations, ils utilisent toutes des données probantes et ils conduisent à des recommandations complètement différentes. Parce qu'on n'a pas défini qu'est-ce qui est suffisamment probant. Et ça sera le gène de mon intervention. Et je réponds à Agnès aussi, parce que tu poses la question. Si tu définis pas qu'est-ce que c'est que probant. Et en fait, voilà, Hervé, j'aime bien, parce que ta pyramide et ton iceberg, ça résout rien du tout. Ça m'évite la vie. Parce que probant, c'est une interprétation. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à midi.
Oui, la composition elle-même des groupes est très très importante. Hein. Les cardiologues qui font les recours entre cardiologues et dont 80% sont vibrosés par l'industrie pharmaceutique, vous avez un problème que vous connaissez. Les problèmes dans la recommandation sont les liens d'intérêt très importants. Il y a énormément de problèmes là-dessus. Et les liens d'intérêt, je ne sais pas comment les faire. Certains disent on va sortir ceux qui ont des liens de la salle. D'autres disent il faut être transparent, tout le monde explique tout. Hein. D'autres disent si on veut faire des progrès, on travaille avec l'industrie. Donc c'est il y a des livres entiers américains qui disent que l'innovation ne vient que par ceux qui ont des liens d'intérêt. Avec l'industrie. Il y a des livres qui disent ça. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. D'autres remarques, oui, merci.
Bonjour, Sébastien Davidovitch. Je suis assis sur un prix, mais je travaille avec Créteil. Moi, je veux bien, pour rentrer dans les détails un petit peu cette idée des liens d'intérêt. Je me questionnais en travaillant au quotidien. J'avais le sentiment qu'en cardiovasculaire, il y avait foison de données probantes, et je mets des guillemets parce que pour le coup, ces données probantes qui semblent parfois extrêmement solides, on est asséné de méta-analyse de décès randomisés, sont, comme vous dites, biberonnées à l'industrie pharmaceutique. Et j'avais le sentiment, et pour le coup, je veux bien votre, peut-être une analyse historique si c'est possible. Par exemple, en gynécologie ou santé de la femme, bah, que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présent et que la quantité de données était, bah, il y avait beaucoup plus d'empirisme, dans les données. Je voulais bien avoir déjà votre avis et un petit peu, si possible, une analyse un peu, historique de pourquoi de telles différences entre les spécialités.
Prenez le cardiovasculaire, statine ou autre, les premières grandes études, Wooscob, compagnie, hein. L'industrie a bien compris qu'il fallait augmenter le nombre de balles. Hein. Donc on faisait des essais à 100, 300 000, hein. On est arrivé à des études à 4 000, 8 000, 20 000 malades. Et à 20 000 malades, votre B devient significatif. Hein, vous regardez un tout petit peu. Hein. Mais à 20 000 malades, si vous voyez ce que c'est le NNT, le nombre de malades à traiter pour éviter un événement, vous êtes obligé d'en traiter 300 pour éviter un infarctus ou 500. Donc, si vous voulez, quelle est la pertinence de ça? Donc, l'industrie a très bien compris qu'il s'agissait de mettre de l'argent, d'augmenter le nombre, et que l'on devenait significatif. Alors, quelle est la pertinence derrière tout ça? Ça, c'est déjà un problème. Ce qui fait qu'en cardiologie, où il y a eu, pendant une époque, il y a moins aujourd'hui, beaucoup d'argent de l'industrie, où tout le monde était très content de ça, les académiques, les premiers, et avec l'industrie qui tire. J'ai travaillé 15 ans dans l'industrie à faire le développement clinique, hein, donc je peux vous expliquer comment on fait pour faire marcher un médicament. Hein. Donc, si vous voulez, les académiques sont aussi très contents de tout ça. Je commenterai sur la santé de la femme. Parce que si vous regardez les études académiques de ces grands essais, je cite Wooscob ou d'autres, qui ont été. En plus, Wooscob, le premier sur les statines, a été fait chez des malades qui étaient hyper graves. Ça n'a pas été fait sur une population tout venant. Hein. Ils avaient des cholestérols au plafond. Ça avait été une sélection de malades. Mais ça, on l'a pas dit après. Hein. On a vendu le message que ça marchait. Et que les premières études étaient faites sur des échantillons de malades qui n'étaient pas le tout venant. D'accord. Donc il y a toute cette histoire de l'industrie qui gère ça. Et moi, je suis extrêmement frappé par quelque chose qu'on ne changera pas. C'est quand vous allez dans le New England ou le Lancet et que vous avez l'essai machin sur un nouveau médicament, il est signé par 10 cardiologues experts. Parce qu'ils ont inclus des malades, c'est quand même pas eux qui ont décidé des grandes études. C'est pas eux qui ont fait le protocole, c'est le directeur médical du labo. C'est pas eux qui ont choisi les centres. C'est pas eux qui ont géré le monitoring. C'est pas eux qui ont fait l'analyse des données. C'est pas eux qui ont écrit l'article. En gros, ils ont été, je m'excuse du terme, des guignols. Pour inclure des malades à un moment donné, et ils l'ont bien fait. Et j'ai pas d'état d'âme, hein. Mais ils se sont pas posé de questions sur pourquoi la dose du comparateur est choisie comme ça. Et si elle est choisie comme ça, c'est qu'il y a une raison, hein, d'accord, hein. Et ça, c'est le directeur médical du labo. Mais quand vous en venez à la publication, dans le New England ou d'autres, dont le comité de rédaction est académique, ils accepteront jamais de recevoir un essai signé par directeur médical de GSK. Hein? Et ils prennent un essai signé par professeur machin, Vab, qui n'a pas beaucoup son mot à dire sur la conception, la conduite, voire l'analyse. Donc, vous avez toujours des essais qui sont signés par des gens qui n'ont pas, pour moi, la qualité d'être auteur de ces articles. Je suis marginal, il y a d'autres gens qui sont d'accord avec moi, hein, je discute. Donc, voyez, vous avez un système, et j'accuse là, tenu par des académiques et manipulé par l'industrie, en s'en rendant compte pour beaucoup. Bon. Sur la santé de la femme, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Effectivement, je crois que vous avez un peu raison, il y a quand même beaucoup de données, hein, mais il y a eu peut-être historiquement moins d'argent.
Et je dis bien que dans la rhumato, que dans la cardio, que dans le machin, ce qui fait que moins d'argent, vous avez moins de développement, moins de ceci et moins de cela. Moins d'argent pharmaceutique, je suis entendu. C'est une hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment?
La cardiologie, ça soigne les hommes en premier. Et...
pas les femmes. Oui, mais non, mais c'est une hypothèse aussi.
On va, si ça vous va, s'arrêter là pour les questions. Je fais mon boulot de maître du temps.
Moi, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous, Sophie.